France Musique. Ciné Tempo, une émission en partenariat avec le mensuel Positif.
Ciné Tempo. Par Thierry Jousse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciné Tempo. Aujourd'hui, pour la deuxième semaine consécutive, nous serons gothiques, fantastiques et vampiriques à souhait. Toujours en lien, bien sûr, avec l'exposition Vampire qui a ouvert récemment à la Cinémathèque française et que je vous recommande. Mais avant de retrouver Nosferatu, Dracula et ses avatars, voici d'abord la fiancée d'une autre créature célèbre et monstrueuse. Démarrer le second volet de ce diptyque, de notre diptyque consacré aux vampires et autres créatures gothiques, le final musical d'un classique du cinéma de monstres, La fiancée de Frankenstein, donc réalisé par James Whale. La musique souvent grandiose en est signée donc par un des grands représentants du son hollywoodien, Franz Waxman, d'origine juive allemande, exilé aux USA après un bref passage en France, exilé aux USA précisément à partir de 1935, l'année de la réalisation de la fiancée de Frankenstein, ce qui qui ont fait d'ailleurs la première musique de film hollywoodienne de Franz Waxman, dont la carrière vertigineuse ne s'arrêtera pas là, puisqu'elle durera jusqu'au milieu des années 60. Pour revenir, disons, à la fiancée de Frankenstein, on peut dire que c'est le fleuron le plus brillant de ce qu'on a appelé dans les années 30 les films Universal Monsters, du nom de la compagnie hollywoodienne Universal, qui invente littéralement le gothique dans le cinéma parlant, avec notamment le Dracula de Todd Browning, qui révèle dans le rôle-titre le grand Bela Lugosi. Mais la fiancée de Frankenstein donc demeure probablement le plus beau film de ce premier âge d'or du cinéma fantastique, qui aura une influence évidemment capitale sur tout ce qui suivra. Tout de suite, un saut dans le temps avec 33 ans plus tard, la musique d'un autre film crucial, mais cette fois-ci à la fin des années 60. J'ai nommé La nuit des morts vivants, le premier long métrage de George Romero, qui vient d'ailleurs de ressortir en salle avec également deux autres films de cette série autour des morts vivants, Zombie en 1978 et Le jour des morts vivants en 1986, donc une sorte de trilogie, mais il y en a d'ailleurs, je crois, encore deux autres qui arrivent après ces trois-là. En tout cas, La nuit des morts vivants, c'est le film qui invente littéralement l'horreur et le gothique moderne, à la fois frontal, en même temps assez métaphorique et souvent très politique, et qui propulse le mort-vivant au rang d'un personnage mythique. La musique, quant à elle, en est finalement un peu plus traditionnelle, bien que très inquiétante et très réussie. Thank you. Musique dans Cinétempo, la musique ponctuée de sons et de chœurs très évocateurs. La musique donc d'un autre film de George Romero, Creepshow en 1982. Un film à sketch qui mélange sur des scénarios de Stephen King, qui joue d'ailleurs lui-même un rôle important dans le deuxième segment, qui mélange donc horreur et humour noir. Ça arrive évidemment, puisqu'on n'est pas très loin d'Halloween, ça me paraît d'actualité. La musique gothique à souhait est signée par John Harrison, qui a peu composé de musique pour le cinéma, mais qui en revanche est devenu réalisateur, ce qui est tout de même assez rare, même s'il y a évidemment quelques réalisateurs, compositeurs, comme par exemple John Carpenter. Alors pour Creepshow de Romero, John Harrison cumulait d'ailleurs les fonctions d'assistant réalisateur et de compositeur, ça c'est encore beaucoup plus rare. Revenons aux vampires et aux origines du genre, au cinéma du moins, avec le premier grand classique en ce domaine, le Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, un classique réalisé en 1922, un film esthétiquement très puissant et également fortement influent sur la suite du genre. En gros, c'est le film matriciel, on pourrait dire, de tout ce qui va suivre. Et vous le savez peut-être, Werner Herzog en a réalisé un remake en 1978, dont nous avons d'ailleurs écouté un extrait musical la semaine dernière. Vous étiez peut-être à l'écoute. Depuis la généralisation des ciné-concerts, évidemment, le Nosferatu de Murnau a connu plusieurs incarnations musicales, parmi lesquelles celle du groupe français Arzoid, peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais enfin, qui était un groupe important des années, notamment 70-80, avec en particulier aux manettes le compositeur Gérard Hourbette, magicien de l'électronique. La musique que vous allez entendre date de 1989, et elle est très évocatrice, tout en modernisant l'approche musicale du genre. Attention, le maître arrive.
Thank you.
une autre musique pour Nosferatu, mais cette fois-ci pour une version théâtrale, plus précisément créée en Pologne et créée en 2012. En tout cas, c'était l'année de la parution de l'album, mais également l'année du centenaire de Bram Stoker, l'auteur immortel du roman Dracula. Donc, la partition donc, a été signée par le saxophoniste, multi-instrumentiste en fait, et compositeur new-yorkais John Zorn, dont on connaît l'intérêt fondamental pour le cinéma. Il a composé pas mal de musique d'ailleurs pour des films qu'on a souvent d'ailleurs qu'on ne connaît pas vraiment en France, mais enfin voilà, il y a un imaginaire cinématographique très marqué chez John Zorn, une version nettement plus dépouillée voire même un peu minimaliste que celle du groupe Artzoy que vous avez entendu juste avant, mais une version néanmoins très convaincante. John Zorn était au piano, Rob Burger à l'orgue et Bill Laswell à la basse, et cette musique bien sûr est disponible sur Zadig, le label de John Zorn. Alors changement de décor tout de suite avec une plongée dans la série B, voire la série Z même, des années 60-70, et plus particulièrement dans l'œuvre d'un cinéaste espagnol assez culte qui a réalisé plus de 100 films. Il s'agit de Jess Franco, ou Jesus Franco, de son vrai nom, Jesus Franco, assistant d'Orson Welles sur Falstaff, et devenu, dès la fin des années 60, le spécialiste du cinéma d'horreur à très petit budget et surtout à tendance érotique. Il se trouve que Jess Franco, avant de devenir cinéaste, avait reçu une formation classique au Conservatoire Royal Supérieur de Musique de Madrid, et qu'il se destinait à être compositeur, ce qui explique sans doute que les musiques de ses films soient souvent très intéressantes, d'autant plus qu'il porte aussi un grand intérêt au jazz, voire à la pop. Alors, je pense en particulier, donc, ce qui concerne ses BO, à la plus culte de toutes ses musiques, celle du film Vampiros Lesbos, objet mi-érotique et mi-horrifique, dont la bande-son est signée d'un groupe allemand qui portait sur ce film le doux nom de The Vampire Sound Incorporations. C'est en réalité la réunion de deux musiciens, deux très bons musiciens pop jazz allemands de l'époque, Manfred Hubler et Siegfried Schwab. Plongeons donc ensemble dans l'univers très empoisonné et très sensuel du film de Jess Franco, Vampiros Lesbos.
Thank you.
sur France Musique dans Ciné Tempo Necromania, un deuxième extrait de la bande originale du film de Jess Franco, Vampiros Lesbos, une musique signée, je vous le rappelle, par deux musiciens allemands assez remarquables d'ailleurs, Manfred Hubler et Siegfried Schwab, une musique cultissime qui a fait l'objet dans la deuxième moitié des années 90 d'un album très prisé par les amateurs et autres DJ sur le label allemand Crippled Dick Hot Wax. Alors je vous ai déjà évoqué, je vous ai déjà dit que autant les films de Jess Franco étaient le plus souvent assez bâclés, même s'il y a une sorte de bâclage parfois génial chez lui, ou en tout cas il y a certaines trouvailles qui sont assez remarquables ou amusantes, autant les musiques sont souvent très passionnantes. En voici, après Vampiros Lesbos, une autre preuve avec cet extrait mi-funky, mi-jazz, même avec une petite, un tout petit parfum légèrement frit aussi, de la BO d'un autre film de Jess Franco encore plus obscur, Les Démons, qu'il réalise en 1973. Alors, la musique est signée par un compositeur au nom français sur lequel je n'ai absolument rien trouvé après, je ne dirais pas quelques heures de recherche, mais enfin en tout cas une recherche non négligeable sur Internet. Ce compositeur s'appelle Jean-Bernard Reiteux, si quelqu'un parmi les auditeurs de cette émission connaît ce compositeur, je suis assez preneur d'informations. La seule chose que je sais, c'est qu'à l'écoute de son travail pour Les Démons de Jess Franco, je trouve que sa musique est assez remarquable. En tout cas, cette musique justement des Démons a fait elle aussi l'objet d'un album sur l'excellent label anglais Finders Keepers. En tout cas, je vous les juge. rock, folk et un tout petit peu de jazz, la musique assez curieuse de Philippe Daram pour un film, lui là aussi de série B, voire de série Z, cette fois-ci français. Il s'agissait du Frisson des vampires de Jean Rollin. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent le nom de Jean Rollin, parce qu'il fait un peu l'objet lui aussi d'un culte. Il a réalisé pas mal de films à tout petit budget, avec une ambiance comme ça toujours assez étrange. Brigitte Lahaie était une de ses héroïnes à une époque, mais enfin auparavant il y avait eu d'autres créatures comme Sandra Julien, puis des seconds rôles. Voilà, c'est une ambiance qui fleure bon les années 70-80. Philippe Daram, il est essentiellement connu dans le monde de la musique de film pour sa collaboration à l'époque donc avec Jean Rollin, qui a duré d'ailleurs jusqu'aux années 2000. Et puis Philippe Daram, c'est aussi quelqu'un d'ailleurs qui a beaucoup œuvré pour la connaissance de la musique de film, parce qu'il fait souvent une sorte de tournée de conférences pour expliquer très concrètement à quoi sert la musique de film. C'est souvent bien utile.
Cinétempo, Thierry Jousse, France Musique.
Alors pour poursuivre ce parcours donc autour des vampires et autres créatures gothiques, une musique que j'ai déjà eu l'occasion de diffuser dans Ciné Tempo il y a quelques mois, c'est la musique de François de Roubaix, qui n'est pas spécialisé lui dans le film de vampires, pour ce film assez étonnant, de ce film belge d'Harry Kummel qui s'appelle Les Lèvres Rouges, avec Delphine Seyrig dans le rôle d'une sorte de maîtresse vampire, avec une musique très réussie de François de Roubaix. Je vous propose d'écouter ou de réécouter cet extrait, Les Dunes d'Ostende. L'envoûtante musique des Tindersticks, composée par le leader du groupe Stuart Staples pour le film de Claire Denis, Trouble Every Day, en 2001. Un film assez blafard, comme ça, avec une ambiance pleine de malaise, mais dans le bon sens du terme, qui renouvelle le thème du vampirisme, avec Béatrice Dalle dans le rôle du vampire, on pourrait dire, et également Vincent Gallo dans ce film, donc qui date de 2001, et qui avait marqué les esprits, y compris d'ailleurs en provoquant certains malaises quasi physique chez certains spectateurs ou spectatrices dans sa présentation à Cannes hors compétition. Donc c'était en 2001. Donc la musique de Stuart Staples et des Tindersticks, évidemment, c'est les complices depuis plus de 20 ans de tous les films de Claire Denis. Et on peut dire que voilà un duo qui a vraiment bien fonctionné entre Claire Denis et les Tindersticks, et surtout Stuart Staples. Et il y a comme une osmose, comme ça arrive parfois dans le cinéma, entre l'univers cinématographique de Claire Denis et l'univers musical donc des Tindersticks, qui, je rappelle, est un groupe anglais, mais Stuart Staples est en fait installé en France depuis plusieurs années. Je crois qu'il est dans le sud, un peu quelque part par là. En tout cas, de Claire Denis à Jim Jarmusch, il n'y a qu'un pas, toujours dans le renouvellement, on pourrait dire, de l'imagerie et éventuellement, accessoirement, des musiques également, de l'imagerie donc des vampires. On peut d'ailleurs, si vous visitez l'exposition à la Cinémathèque, ce que je vous recommande chaudement, puisque l'exposition est vraiment réussie, ne serait-ce que dans sa scénographie et dans son découpage en chapitres, vous pourrez justement suivre à travers des montages d'extraits, à travers des documents divers et variés, même des tableaux, vous pourrez suivre l'évolution figurative, on pourrait dire, des vampires au cinéma, et parfois même aussi sous la forme de dessin ou sous une forme plus littéraire. Et c'est passionnant, et de ce point de vue-là, le film de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, qu'il réalise en 2014, tient un rôle assez important, tient une place assez importante en tout cas. Only Lovers Left Alive, c'est le versant, on pourrait dire, un peu dandy, très dandy même, très amateur de musique du vampirisme, justement une musique extrêmement singulière, composée par Joseph Van Wissem, qui est un guitariste à la base hollandais, qui s'est installé à New York dans les années, je crois, 2000, et qui s'est mis à jouer du luth. Pourquoi pas, il y a beaucoup de liens entre le luth et la guitare, et puis il a rencontré Jim Jarmusch en 2007. Ensemble, ils ont ont collaboré sur 3 albums, puisque Jim Jarmusch est également musicien, et puis surtout sur cette bande originale de Only Lovers Left Alive, qui donne voilà, à la musique de ce film une dimension assez médiévale.
Thank you.
la musique à la fois planante et assez médiévale de Mark Corven pour le film de Robert Eggers, The Witch, qui est sorti en 2016. Alors, c'est un film assez terrifiant, il faut bien le reconnaître, une histoire de sorcellerie qui revient un peu aux origines, enfin aux origines, je ne sais pas s'il y a des origines absolument attestées, mais enfin en tout cas au XVIIe siècle, une histoire qui se passe dans la Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle-Angleterre, pardon, avec une ambiance, je le disais, tout à fait effrayante. Et cette musique, d'ailleurs, contribue vraiment à l'effroi qu'on peut ressentir à ce film. Je vous le recommande. Il a été réalisé par Robert Eggers, qui va bientôt sortir son prochain film qui s'appelle The Lighthouse, une histoire de gardien de phare qui s'annonce aussi assez terrifiante, qui avait été présentée d'ailleurs à Cannes. C'était son premier film, The Witch, et c'est peut-être aussi un des cinéastes qui renouvelle, on va dire, le genre du cinéma d'horreur qui, au fond, se renouvelle justement perpétuellement depuis les années 30, finalement. Petite fantaisie assez rythmique signée Cho Young-wook. Ou alors, je ne sais pas comment on prononce exactement, parce que l'orthographe varie, en tout cas l'orthographe européenne ou occidentale, il s'appelle aussi Cho Young-wook. Bon, bref, c'est le compositeur privilégié des films de Park Chan-wook, donc il lui est plus connu probablement parce qu'il a réalisé notamment un film qui s'appelle Old Boy, qui avait eu le Grand Prix à Cannes il y a une quinzaine d'années. Et puis, cette musique est tirée de la bande originale d'un autre film de Park Chan-wook d'il y a une dizaine d'années, Thirst. Ceci est mon sang, l'histoire d'un prêtre qui devient un vampire, qui est également curieusement une variation sur Thérèse Raquin d'Émile Zola, une musique que j'avais envie de vous diffuser juste pour terminer un peu ce parcours, ce double parcours, la semaine dernière et cette semaine, autour des films de vampires, autour des films gothiques, une musique qui justement est un petit peu décalée, un petit peu atypique par rapport au standard et au canon du genre.
Ciné Tempo, Thierry Jousse, France Musique.
Alors pour terminer cette émission, comme chaque semaine, la séquence, la BO de la semaine, et cette BO de la semaine n'est pas une BO, ça arrive de temps en temps, ou alors une BO imaginaire, elle est signée, enfin c'est un album donc qui est sorti il y a pas très longtemps, fin septembre, signé Pierre Davenkeller, qui s'était déjà distingué dans le monde de la musique de film, notamment auprès de Catherine Corsini ou des frères Larieux, par exemple, qui a publié un album qui porte bien son nom, Kino Musique, on va dire sous influence Ennio Morricone, Jean-Claude Vanier, dans les meilleures périodes. Vous allez pouvoir l'entendre d'ailleurs avec le morceau qu'on commence déjà à écouter, ça s'appelle Champ Magnétique. Et puis voilà, tout l'album est un peu de à ces tones là, de cet acabit, c'est une sorte d'exercice de style, mais extrêmement bien fait, et surtout fait avec beaucoup de goût, un sens artistique je trouve tout à fait remarquable. C'est signé Pierre Davenkeller, ça s'appelle Kino Musique, et c'est paru sur le label Quaidan. Le morceau qu'on écoute s'appelle Champ Magnétique. champ magnétique pour terminer cette émission signée Pierre Davenkeller dans l'album Kino Musique, donc paru il y a environ un mois. Merci à ceux qui m'accompagnaient aujourd'hui. Emmanuel Dupuis, Dorothée Gol pour la page Cinétempo sur le site francemusique.fr où vous pouvez retrouver les réécoutes, les renseignements, les liens, tout ce que vous souhaitez. Swad Boukorsa était aujourd'hui au mixage et David Travailleur à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée plus particulièrement au cinéaste Marco Bellocchio.
À réécouter sur francemusique.fr.